Le Hezbollah et son désarmement sont au cœur de l'actualité avec la date butoir du 31 décembre qui s'approche. On parle, vous parlez de cela, Lise, avec notre invité ce matin. Il s'agit de Jacques Néria, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, et on le remercie d'ores et déjà d'être avec nous.
Jacques Néria, bonjour.
Oui, bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Jacques, dans l'accord entre le Liban et Israël, le désarmement du Hezbollah devait intervenir pour le 31 décembre 2025, c'est-à-dire la semaine prochaine. Côté libanais, on dit oui, pas de problème, on va y arriver. Côté israélien, on dit pas du tout, ça n'est absolument pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer du coup la semaine prochaine ?
Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est une date butoir, mais simplement, il y a une différence d'interprétation concernant la résolution du Conseil de sécurité. Israël dit très clairement que la décision concerne, en fait, le désarmement complet de Hezbollah au Liban. Donc, c'est le désarmement de toute milice militaire. Donc, c'est le Hezbollah, ce sont les Palestiniens, le Jamaat islamien et tout autre. Tous doivent être désarmés, alors que le Hezbollah, lui, interprète cela autrement, disant que cela concerne uniquement le sud-Liban, de la région entre la rivière du Litani et la frontière internationale avec Israël. Donc c'est plus ou moins cela. Ce qui est certain, c'est que les positions sont très claires. Un, le Hezbollah dit très clairement qu'il ne va pas se désarmer. Deux, le gouvernement libanais est incapable de réaliser ses aspirations de désarmer le Hezbollah, et au plus, au maximum, ils sont capables, et c'est ce qu'ils prétendent, de neutraliser ou de démilitariser la région qui s'étend entre le fleuve Litani et la frontière internationale avec Israël. Donc c'est une bande de quelques 850 km². Plus que cela, l'armée libanaise est incapable de faire quoi que ce soit. Si on peut peu, on fera peu. Donc c'est ce que le Liban dit. Et en fait, ça ressemble plus ou moins à une pièce de théâtre du Moyen-Âge où on attend que Deus ex machina, donc l'intervention divine, pour venir et résoudre le problème. Parce que d'un côté, le Hezbollah ne va pas se désarmer. De l'autre côté, le gouvernement libanais est incapable de désarmer le Hezbollah. Trois, que va faire Israël ? C'est la grande question. Est-ce qu'Israël va accepter le fait accompli que le gouvernement libanais est incapable de désarmer le Hezbollah, ou bien Israël mettra sous action sa menace ? Maintenant, si cette menace n'est pas renforcée, donc automatiquement, je dirais, il y a une perte de réputation et une perte de la dissuasion israélienne face, je dirais, aux Arabes, face au monde qui nous entoure. Donc, de ce point de vue-là, Israël n'aura pas le choix, et naturellement, il faudra l'aval des Américains pour cela, que d'agir contre le Hezbollah, de l'affaiblir de telle façon que les tentacules de cette pieuvre-là puissent libérer le gouvernement libanais et lui permettre de négocier avec Israël une certaine paix, paix sécuritaire, ou n'importe quel autre accord avec Israël qui permettrait à Israël de vivre tranquillement sur sa frontière nord.
Alors, ce qui est un peu nouveau, Jacques Néria, vous allez me dire si c'est le cas, c'est d'entendre le chef de la diplomatie libanaise, donc le ministre libanais des Affaires étrangères, appeler publiquement au démantèlement total du Hezbollah, dire que c'est une exigence du peuple libanais. C'est un peu schizophrénique parce que d'un côté, il dit ça et en même temps, c'est lui qui est responsable de le faire et ça marche pas très bien.
Voilà, mais c'est tout à fait, ça concorde à, je dirais, opposition libanaise historique. Donc c'est à une certaine période, les Libanais voulaient et puis profiter de l'aide anglaise, des Britanniques à l'époque. Ensuite c'était les Français, ensuite c'était les Israéliens, c'était les Syriens, et maintenant c'est le Hezbollah. Donc et chaque fois maintenant, on se retourne vers les Américains en espérant que les Américains puissent résoudre ce problème-là. Les Libanais eux-mêmes sont incapables de le faire. Et on le voit très clairement. L'armée libanaise est tout simplement minée par les chiites. Elle est 50% à 60% des effectifs de l'armée libanaise sont des chiites. On ne va pas employer une armée de chiites contre le Hezbollah chiite. Oui. Donc on ne va pas forcer des frères à se battre ou des membres de la même famille. Regardez ce qui se passe dans la famille Choukr. La famille Choukr, donc, qui a été, je dirais, dans les titres cette semaine, soi-disant récemment, le Mossad a kidnappé Ahmad Chouk, un ex-capitaine des forces de sécurité intérieure. Eh bien, cet ami Chouk, donc lui-même membre des forces de sécurité intérieure, donc officiel libanais, son frère, membre de Hezbollah, a combattu Israël en 1988 et a été tué dans la bataille de Maïdoun. Son autre cousin, c'est Fouad Chouk, le chef d'état-major qui a été tué en juillet 2024 par Israël dans une frappe aérienne. Donc, et le maire de la ville de Nabéchit, là où se trouvait Ahmad Chouk, lui-même appartient, je dirais, politiquement au mouvement Amal. Donc, c'est, je dirais, cette famille-là représente le microcosme de chiites et le problème, le problème même, je dirais, de la scène politique libanaise. On ne peut pas compter sur les chiites et on ne peut pas compter sur le gouvernement libanais. Il faudra naturellement agir autrement.
Alors, l'autre force qui est entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ils n'ont pas beaucoup agi depuis le début, c'est les casques bleus, la FINUL, qu'on a l'impression de voir Jacques un peu ne pas savoir très bien quoi faire entre Israël et le Hezbollah.
Écoutez, la FINUL a été toujours, je dirais, émasculée. Je dirais, c'est une force qui existe depuis 1978 pour fournir des salaires à ses membres. Et naturellement, ces derniers temps, cette année-là sera la dernière année de la présence de la FINUL au Liban. Elle a été votée au Conseil de sécurité de l'ONU et elle devra disparaître en fait en 2026. Et la grande question qui se pose, c'est qui va remplacer la FINUL au sud? Est-ce que l'armée libanaise sera capable de fournir cette garantie sécuritaire que demande Israël? Ou bien c'est Israël lui-même qui mettra, je dirais, toutes les dispositions pour sa sécurité au sud Liban? C'est la FINUL elle-même, comme force d'intervention, on le voit, n'a jamais été effective. Sous son nez, je dirais, le Hezbollah a creusé des tunnels, a creusé des fortifications, mis des dépôts d'armes et tout cela se passe à 50 mètres, à 100 mètres des positions de la FINUL. Donc compter sur la FINUL pour la sécurité d'Israël, il faudra naturellement rêver pour cela.
Ma dernière question, Jacques Neria, ça sera pas sur le Liban, mais sur la Syrie. On entendait des bons échos, entre guillemets, que sous la médiation américaine et peut-être russe, Israël et la Syrie progressaient vers un accord sécuritaire. Est-ce que vous y croyez dans un avenir proche?
Écoutez, les Américains sont en train de faire un forcing là-dessus. C'est leur nouveau, leur nouveau bébé. Donc c'est la Syrie. C'est la première fois que les États-Unis se trouvent en position de force en Syrie. Et naturellement, pour eux, ce régime est très important géographiquement, stratégiquement, et au Moyen-Orient. Et naturellement, ils voudraient naturellement éviter que Israël agissent de telle façon pour produire une instabilité en Syrie. Déjà, l'actuel régime est instable puisque d'un côté il y a les dissidents druzes, les dissidents kurdes, les dissidents alaouites qui sont toujours très actifs, et l'opposition qui a fui la Syrie et qui se retrouve au Liban et en Turquie et dans d'autres endroits du monde est en train d'agir contre le régime lui-même. Et on le voit des actions, des activités qui sont menées depuis pas mal de temps, sans oublier naturellement la présence de l'État islamique qui est devenu beaucoup plus prépondérant en Syrie. Et pour la première fois, je dirais, la Syrie a annoncé qu'elle était de concert avec la coalition internationale à agir contre Daesh. Donc, ce sont des événements, je dirais, des stratégies qui changent, je dirais, le layout du Moyen-Orient aujourd'hui. Et Israël doit comprendre que dans ces conditions-là, les Américains et les Russes sont en train de coopérer pour éviter une crise qui mènerait à une confrontation entre Israël et la Syrie, ce qu'ils ne veulent pas du tout. Ce qui est encore plus important, c'est l'intervention de la Russie pour empêcher la présence turque au plateau dans le plateau ou dans la proximité du plateau du Golan, donc dans les dispositions sécuritaires qui devraient, je dirais, apaiser d'une certaine façon Israël et l'amener finalement à accepter cet accord de sécurité que les Américains demandent et qui comprend naturellement des éléments de retrait israélien des territoires qui ont été occupés depuis décembre 2024 et retourner aux lignes qui prévalaient jusqu'en 1974. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant. La Syrie a publié une carte de la Syrie où le Golan ne figure pas comme territoire syrien. C'est déjà quelque chose d'acquis.
Effectivement, on en a discuté quand cette révélation a été faite et c'est une affaire qu'il faudra suivre largement. Bon, merci beaucoup à Jacques Neria, ancien officier de renseignement militaire de Tsahal, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous et à très vite.
Merci, Lise.